Chapitre 6. L'assassin d'une morte. Depuis le jour de l'agression à laquelle il avait échappé grâce à son voisin, James Gobson était devenu plus brutal, plus grossier encore que par le passé envers sa femme. Bien qu'il eût semblé ne lui reprocher qu'en plaisantant d'avoir aposté des malfaiteurs sur sa route, l'idée d'un guet-apens provoqué par Ada s'était enracinée dans son esprit. Et il craignait à ce point, si brave qu'il fût, que cette tentative ne se renouvelât, qu'il ne rentrait plus jamais à Prairie Fields pendant la nuit. Lorsqu'il avait prolongé sa soirée au club, il y couchait pour ne revenir à la villa que le lendemain dans la journée. Son premier soin en arrivant chez lui était invariablement d'y faire quelques scènes, soit à ses gens, soit à Mistress Gobson. Puis, ce devoir d'ivrogne accompli, il courait chez Charles Murray, dont il avait fait son confident. Ce dernier s'efforçait de le calmer, mais il s'y prenait si étrangement que James sortait toujours de ses entretiens avec lui plus haineux contre Ada. Le lendemain de l'événement qui termine le précédent chapitre, James rentra chez lui vers 3 heures. Il vint ainsi que de coutume trouver son voisin, et il s'exprima de telle sorte à propos de sa femme que celui-ci lui répondit. « C'est un véritable enfer qu'une semblable existence. Pourquoi ne vous séparez-vous pas de Mistress Gobson ? Ça vaudrait mieux que quelque scandale, car certainement elle se sauvera un de ces matins. Un beau soir, en revenant chez vous, vous ne la retrouverez plus. » « Me séparer ? Est-ce que c'est possible ? » gronda le mari. « Mais si je pensais qu'il eût quelque idée de fuite, je jure bien qu'elle ne sortirait d'ici que les pieds en avant. Tout ça finira mal. Elle ne vous parle jamais de rien. » « Je me suis trouvé seule avec elle à peine 2 fois depuis que nous nous connaissons, et vous comprenez qu'elle ne m'aime guère. Parbleu, vous m'avez sauvé la vie. Non, ce n'est pas pour ce motif, mais elle sait que j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Cependant, il est bien certain qu'elle a quelques projets en tête. N'avez-vous pas un parent ou un ami du nom de Davis ?»« Davis ? Non, pourquoi ?» J'avais lieu de le penser, car l'autre soir, au moment où vous veniez de la traiter assez mal, il faut le reconnaître, je l'entendis qui murmurait en vous suivant des yeux, et dire que je n'aurais qu'à écrire un mot à M. Davis pour en terminer. Davis, ah la misérable! Ce nom venait sans doute de réveiller tout à coup de terribles souvenirs dans l'esprit de Gobson, car en poussant cette exclamation, il était devenu fort pâle et s'était levé. Vous n'allez pas me trahir au moins, lui dit Charles Murray. Voyons, un peu de calme. Avec les femmes, la violence ne sert à rien. Il faut user de ruse, et surtout ne pas se laisser surprendre. Ce Davis ou un autre ami ou parent, peu vous importe. Personne ne saurait vous effrayer. Vous êtes le maître chez vous. À votre place, je laisserai Mistress Gobson vivre à sa guise. Je l'autoriserai à prendre toutes les distractions qui lui conviendraient. Je l'engagerai même à rester moins enfermée. Il n'en faudrait pas davantage pour la satisfaire et vous rendre le repos à tous deux. Oui, vous avez peut-être raison, répondit James Gobson avec un effort visible pour demeurer maître de lui. Et surtout, je ne lui parlerai de rien. Si vous agissez autrement, elle se tiendra sur ses gardes, vous jouera comme un enfant et fera quelques coups de tête. Voulez-vous que nous allions la trouver ensemble ? Ma foi, non, pas aujourd'hui, ni demain, probablement. Ce soir, je dîne au club, et demain, nous allons aux courses avec un joyeux compagnon qui est depuis peu des nôtres, Harris Barnett. Or, vous le savez, les jours de course, il y a grand banquet au Parker. Après-demain, dans 2 ou 3 jours, nous verrons ce qu'il y a de mieux à faire. En attendant, puisque vous ne voulez pas venir avec nous, sermonnez Ada. Et si vous vous aperceviez de quelque chose, promettez-moi de me prévenir. Je n'y manquerai pas. Et puis, voyez-vous, au fond, je ne la crois pas capable de me jouer un vilain tour. Ce n'est pas lorsqu'on a sauvé la vie à un homme. Enfin, je me comprends. James Gobson avait prononcé ces derniers mots d'un ton bizarre, et les deux amis s'étant séparés après cet entretien, l'ivrogne repartit pour Boston sans même voir sa femme. Celle-ci, cependant, bien qu'elle fût seule, attendit vainement Charles Murray toute la soirée. La porte de communication des deux villas resta fermée, et la jeune femme passa une nuit terrible, ne comprenant pas pourquoi, après ce qu'elle lui avait promis, celui qu'elle aimait ne venait pas la rejoindre. Folle d'amour et de désespoir, elle ne s'endormit que bien avant dans la nuit, et le lendemain matin, elle écrivit à la hâte un billet qu'elle fit porter chez son voisin dès qu'elle crut pouvoir lui envoyer sa femme de chambre sans éveiller les soupçons. En lisant cette lettre, Mary ne put dissimuler un sourire de triomphe. Ada ne lui avait cependant écrit que ces deux lignes, mais sans doute il n'en désirait pas davantage.
« Je vous en conjure, venez, je vous dirai tout. Je ne puis vivre ainsi. Je ne veux pas que M. Gobson me trouve demain à Prairie Fields. »
Une heure plus tard, Charles Murray recevait dans ses bras la jeune femme qu'il était allé rejoindre dans son boudoir. « Ada, lui dit-il, en s'arrachant doucement à cette étreinte passionnée, je ne veux pas connaître vos secrets. De vous, je ne veux que vous. Voulez-vous fuir avec moi ?»«
Si je le veux, » répondit la courtisane dans un cri de joie.
« Eh bien, il faut avant tout éloigner votre mari, pour un jour ou deux. Mais l'éloigner d'une façon certaine, de Boston, car de son club, il peut revenir à chaque instant et vous surprendre tout à coup dans vos préparatifs de départ. Or, vous le connaissez. »«
Il me tuerait. Mais comment faire pour l'éloigner ?»«
Il faudrait provoquer son départ pour une ville voisine. Cherchons. N'a-t-il pas quelques amis à Buffalo ?»«
Je ne lui en connais pas. »«
Ah, je crois que j'ai trouvé. » Comment se nommaient donc les magistrats qui se sont si sottement trompés en accusant votre mari de vous avoir assassiné?
Monsieur Mortimer Davis, ce dernier était le coroner de mon quartier.
Mrs. Gobson avait prononcé ces deux noms en rougissant et d'une voix étranglée. Mais son voisin ne parut pas remarquer son émotion et reprit.
Le coroner Davis, parfait, je tiens mon moyen. Écrivez-moi donc ce nom et cette adresse pour que je ne les oublie pas. Tenez, sur cette enveloppe.
Murray avait pris un buvard sur la table et l'avait mis sur les genoux de Miss Ada. Celle-ci obéit en tremblant.
« Vous ne me comprenez pas ? » lui demanda-t-il. « Non, » répondit-elle.
« C'est cependant fort simple. Je m'en vais faire écrire à M. Gobson, par un de mes amis de New York, une lettre dans laquelle M. Davis sera supposé avoir quelques renseignements à lui demander.
« Oh, ne faites pas ça ! » s'écria la jeune femme avec épouvante.
« Pourquoi ? Qu'a-t-il à craindre ?
Absolument rien !»
Mais voyant Mistress Gobson, les yeux hagards et le visage empreint d'une indicible terreur, il reprit doucement.
« Eh bien, cherchons autre chose. Ou plutôt, non, nous chercherons ce soir.
Mais calmez-vous. » Il avait pris ses deux petites mains dans les siennes et les serrait tendrement. Le mot « ce soir » avait ramené subitement le sourire sur les lèvres de l'amoureuse créature.
« Oui, ce soir, » répétait-elle en l'interrogeant du regard.
« Mais jusque-là, il faudra m'obéir. »
« Aveuglément.
Vous aurez soin d'éloigner vos gens. Je me soucie peu d'être trahi par l'un d'eux.
Le jardinier est aux courses et ne rentrera pas. La cuisinière est malade et j'enverrai ma femme de chambre en ville.
Alors, ce soir à 9h, tenez-vous près de la porte de communication. Je viendrai vous prendre.
Embrassez-moi au moins, » supplia Mistress Gobson.
Murray, qui s'était levée, effleura de ses lèvres le front de la jeune femme et se sauva précipitamment, comme s'il voulait fuir une tentation dont il craignait de ne plus rester vainqueur. Mais il ne fit qu'une station de quelques minutes dans son appartement. Il en sortit bientôt pour monter dans une voiture qui l'attendait devant sa villa. Une heure après, il était à l'hôtel d'Angleterre et serrait les mains de Saunders et de Young, qui venaient d'arriver. Le chef des détectives était toujours le même, amical et bourru, ne parlant toujours que d'arrêter tout le monde. William Doe lui demanda des nouvelles de M. Kelly.
« Je l'ai vu hier, » répondit le terrible capitaine. « Il attend impatiemment que vous teniez votre promesse. »«
Les élections n'auront pas lieu avant 15 jours. Or, demain matin, je l'espère, tout sera fini. » Quant à Saunders, il s'était fait en lui un grand changement, tout à son avantage. L'amour avait disparu. Il ne restait plus dans son cœur que la colère et l'humiliation d'avoir été joué. Au physique, il allait à merveille. Son teint avait repris toute sa fraîcheur. Le gros homme avait encore engraissé. Inutile d'ajouter qu'il fit à son ami Doe toutes les tendresses, surtout lorsqu'il eut appris de lui que le moment de la vengeance approchait. Vers 6 heures, les voyageurs se firent servir à dîner dans leur appartement, et le détective les quitta un instant pour recevoir dans un salon voisin un visiteur qui le demandait. C'était Harris Butler.
« Eh bien, » lui demanda William Doe, « où en est notre homme ?»
Il a perdu beaucoup aux courses, ce qui l'a rendu d'une humeur détestable. De plus, il est ivre à demi, répondit Barnett.
Il ne faut pas qu'il se grise tout à fait. Écoutez-moi bien. À 11h30, c'est-à-dire alors qu'il sera encore possible pour Gobson de prendre le train de Prairie Fields, vous lui ferez remettre ce pli par un des domestiques du club, en recommandant à ce domestique de répondre, si on lui demande qui l'a apporté, que c'est un commissionnaire. Soyez près de James lorsqu'il lira cette lettre. Il sortira aussitôt du parc. S'il vous prie de l'accompagner, vous ferez route avec lui. S'il ne vous a rien dit, vous le suivrez jusqu'ici. S'il ferme sa porte derrière lui, vous passerez par ma grille que vous trouverez ouverte et attendrez derrière la petite porte de communication des deux villas que je vous appelle. Vous m'avez bien compris ?
Parfaitement, monsieur.
Alors, retournez vite auprès de Gobson, de crainte qu'il ne s'aperçoive de votre absence.
Harris Barnett se hâta de reprendre le chemin du club et William Doe rejoignit à table Young et Sanders. À 8 heures, il donna le signal du départ. Les trois amis montèrent en voiture et quelques minutes avant 9 heures, Doe introduisait le chef des détectives et le fabricant de biscuits dans son appartement particulier au rez-de-chaussée de sa maison. Là, après les avoir priés de l'attendre sans trop d'impatience, il les laissa seuls et monta chez Miss Jane. La jeune fille, encore pâle de son émotion de la veille, était avec son institutrice.
« Ma chère enfant, lui dit William, je viens vous prier de ne pas descendre ce soir dans le jardin, et quelque bruit que vous entendiez, de ne pas bouger de chez vous. »
Jane avait levé sur son ami un regard empreint d'une telle tendresse inquiète que celui-ci poursuivit.
« Ne craignez rien pour moi, je ne cours aucun danger, mais j'ai besoin que vous fassiez ce que je désire. Si je puis accomplir, ainsi que je l'espère, l'œuvre qui touche à sa fin, vous-même me remercierez. Je compte sur vous, n'est-ce pas, ainsi que sur vous, mistress. »
La gouvernante et son élève, sans même se permettre une question, promirent aussitôt qu'elles ne sortiraient pas de leur appartement avant que William Doe fût venu leur rendre la liberté. Et celui-ci les quitta en adressant à Miss Jane un affectueux sourire. 9 heures venaient de sonner. Il courut à la porte de communication et l'ouvrit. Exact au rendez-vous, Ada l'attendait. « Venez, lui dit-il. » Et prenant la main de la jeune femme, enivrée d'amour, il la conduisit jusqu'au vestibule de son appartement. Puis, de là, sans passer par la chambre à coucher où se tenaient Young et Sanders, il l'introduisit dans sa bibliothèque. Mais la porte de cette pièce était à peine refermée sur ceux qui venaient d'y pénétrer qu'un horrible cri retentit. Cri de femme affolée tout à la fois de terreur et de désespoir, et suivi du bruit de la chute d'un corps sur le parquet. Puis, des gémissements, des plaintes, des sanglots se succédèrent, et le silence se fit de nouveau sur cette partie de la villa, si étrangement troublée. 2 heures plus tard, portant une masse inerte, William Doe et Young sortaient du rez-de-chaussée, traversaient le jardin et gravissaient l'escalier qui conduisait à l'appartement de Mistress Gobson. Parvenus dans la chambre à coucher, ils déposèrent leur fardeau sur le lit et se retirèrent. Quelques instants après, ils faisaient de nouveau le même chemin, accompagnés cette fois de Sanders, qui paraissait vivement ému, et d'une femme enveloppée dans un grand manteau et qui semblait ne pouvoir se soutenir. Presque au même moment, un domestique remettait à James Gobson, au Parker Club, une lettre qu'un commissionnaire venait d'apporter. Surexcité par la perte et le vin, l'ivrogne ouvrit ce pli avec colère. Il renfermait un billet de 2 lignes et une lettre fermée. Le billet, signé Murray, était ainsi conçu. « Voici ce que je viens de trouver sur le pas de votre porte, et comme cette lettre de vous sans doute et que vous avez perdue peut être pressante, je vous l'envoie par un express. »«
Qu'est-ce que cela veut dire ?» se demanda James.
Mais comme en s'adressant cette question, il avait jeté les yeux sur l'enveloppe de la lettre, il devint aussitôt fort pâle. Il lisait sur cette enveloppe, écrit de la main de sa femme, « Monsieur Davis, coroner du quartier de Saint-Vincent, New York. » La lettre qu'il s'empressa d'ouvrir augmenta encore son épouvante, car sans prononcer un mot, il s'élança hors du salon où il se trouvait, bondit jusqu'à la rue, sauta dans une voiture et donna une adresse au cocher. Il ne s'était pas aperçu qu'il était suivi par Harris Barnett, qui se trouvait à quelques pas de lui lorsque la lettre lui avait été remise et qui ne l'avait plus quitté des yeux. 20 minutes après, Gobson enfilait en courant l'avenue de Prairie Fields. Mais arrivé sur le pas de sa porte, il s'arrêta un instant. Son front était inondé d'une sueur glacée. Sa physionomie hideuse exprimait une implacable résolution et il murmurait avec un sinistre sourire.
« Oh non, misérable, tu ne m'échapperas pas ainsi !»
La villa était plongée dans le plus profond silence. Les ténèbres enveloppaient le jardin. Lorsqu'il fut remis de la rapidité de sa course, il ouvrit sa grille sans bruit, se glissa le long du mur jusqu'à la maison et gagna doucement, grâce au tapis qui étouffait ses pas, le seuil de l'appartement de sa femme. Il tenait à la main un revolver, mais au moment de traverser le salon, il se dit à lui-même « Non, pas ainsi, on entendrait !» Et remettant le pistolet dans sa poche, il s'arma d'un court et solide poignard, sans lequel il ne sortait pas depuis l'agression dont il avait failli être victime. La porte qui conduisait du salon dans la chambre à coucher était ouverte. Il y arriva bientôt, et là, en soulevant les tentures qui formaient portière, et bien que la pièce ne fût éclairée que par une lampe d'albâtre à la lumière douce et tamisée, il reconnut Ada qui, couchée dans son lit, semblait dormir d'un profond sommeil. La luxuriante chevelure de la jeune femme roulait sur ses coussins de dentelle autour de sa tête charmante. Un de ses bras nus, orné d'un de ses gros bracelets d'or dont elle aimait tant à se parer, était gracieusement étendu sur sa couverture. Accablée de fatigue, elle avait oublié sans doute de se défaire d'une partie de ses bijoux. Car de là, oh, comme une bête fauve, il caresse sa proie de ses yeux injectés, Cobson voyait briller ainsi qu'une étoile de feu l'un des admirables diamants que l'ancienne maîtresse de Sanders portait à ses mignonnes oreilles. Ce tableau enchanteur n'était pas de nature à calmer celui qui voulait se venger. On eût dit qu'il ne l'avait parcouru du regard que pour y puiser au contraire plus de haine encore. Car après une seconde d'hésitation, il s'élança et son poignard d'un coup à traverser sa victime de part en part frappa celle qui reposait à la gorge. En même temps que lui, le meurtrier murmurait « Non, Katie Bell, tu ne parleras pas !» Mais l'infâme jeta aussitôt un épouvantable cri et fit un bond en arrière. Son arme avait rencontré une incompréhensible résistance. Et au chevet du lit, s'était subitement dressée une femme en costume indien qui lui criait « Assassin ! Assassin une seconde fois !»« Miss Ada ! » hurla James Gobson à cette apparition terrible. Et le Yagar, la bouche écumante, les traits bouleversés, tout son être frissonnant d'horreur et d'épouvante, il saisit son pistolet et fit feu sur ce fantôme qui l'accusait. Mais sa balle, mal dirigée, frappa la muraille au-dessus de la tête de la jeune femme. Et le meurtrier n'eut pas le temps de renouveler sa tentative homicide, car saisi aussitôt et désarmé par Young et Doe, qui avaient bondi des tentures derrière lesquelles il s'était tenu caché, il fut bientôt renversé sur le parquet et hors d'état de nuire. Au même instant, un sanglot se fit entendre. Le pauvre Sanders s'était jeté sur cette statue de cire, image si fidèle de celle qu'il avait tant aimée, et il lui disait à travers ses larmes, en serrant dans sa main brûlante la main glacée de l'œuvre d'Albert Moore, « Poor Ada, poor Ada, je savais bien qu'elle ne m'avait pas trompée. »